Radio Kapi.
Le journal. Babel Pongo Massimango à la présentation.
Nous parlerons de l'ambiance alors que les festivités de Noël et de Nouvel An approchent. Si à Béni, plusieurs se battent pour notamment avoir une coiffure impeccable à Goma, ville sous occupation rebelle, l'heure n'est pas vraiment à la fête. Et face au bruit de pétards qui se multiplie dans la ville en cette période, le maire de Kindo vient lui de ressusciter la mesure interdisant la vente et l'utilisation de ces articles. Le FMI valide un décaissement immédiat de 445 millions de dollars en faveur de la RDC. C'est après l'approbation de la deuxième revue du programme du pays dans le cadre notamment de la facilité élargie de crédit. Avec Ondeye Kadilo, porte-parole de la MONUSCO, notre invité, il sera question de la résolution 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU qui vient de prolonger pour un an les mandats de la mission onusienne. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À quelques jours de la fête de Noël et de Nouvel An, nous faisons un tour dans différentes parties du pays, nous rendre compte de l'ambiance qui y règne. Ce matin, nous commençons à Béni, dans le Nord Kivu. Ici, les salons de coiffure connaissent un engouement inhabituel. Des files d'attente sont observées presque partout à travers la ville. Beaucoup de clients prennent des rendez-vous pour réserver leur place. Conséquence, les lieux de beauté sont obligés de rester ouverts jusque parfois très tard dans la nuit. Marc Marofimbo nous fait le point après un tour dans la ville.
Dans une dizaine de grands salons de coiffure, dames et mixtes de la ville de Béni que nous avons visité, les clients se bousculent. Certains viennent pour se faire des belles tresses, d'autres pour changer de coiffure ou pour des retouches. Ici, la majorité des clients sont des femmes accompagnées de leurs filles. Des files d'attente sont observées un peu partout dans ces salons de coiffure. Du coup, les heures de service sont devenues élastiques, comme l'explique ici Françoise Bauma, gérante du salon de coiffure Infinity Beauty de Béni.
En tout cas, ici chez nous, ça se passe quand même bien. Vous voyez, comme la période de Noël, ce sont des enfants qui viennent vraiment se rendre belles. En tout cas, on reçoit beaucoup des enfants, des femmes aussi, qui veulent se tresser, bien passer le Noël. Il y a aussi d'autres qui viennent ici pour mettre des perruques. Pendant cette période, on ouvre maintenant à 6h. Ils sont en train de prendre des rendez-vous. Peut-être elle peut venir aujourd'hui. Elle voit qu'il y a beaucoup de gens. Elle se dit comme elle est fidèle ici à notre salon. Elle prend le rendez-vous peut-être de passer 17h parce que d'habitude, on ferme à 20h. Mais ces derniers temps, c'est à 21h, 22h même.
Les salons de coiffure bénéficient du courant stable de la compagnie d'électricité NK pour pouvoir travailler jusque tard dans la nuit. Les services de sécurité ayant par ailleurs renforcé les dispositifs sécuritaires dans la ville en cette période de festivités de fin d'année. Béni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Par contre, la ville de Goma, encore sous la pression de l'occupation de l'FC 123, présente un visage inhabituellement calme en cette période jadis mouvementée. Là où les rues et marchés vibraient autrefois au rythme des préparatifs, une timidité palpable s'est installée, marquant profondément le quotidien des habitants. Bernard Dagnan qui nous décrit la situation.
Ce seront de fait passés dans une situation de frustration pour plusieurs, estime cet habitant.
Les citoyens vivent sous la frustration totale. Cette guerre qu'a connue la ville de Goma a causé des événements malsains. Au-delà de ces morts, il n'y a pas l'autorité de l'État. Alors comment ils pourront fêter?
Une autre raison exacerbant l'atmosphère morose demeure la faible circulation de la monnaie. Après 11 mois de fermeture des banques, les ménages n'ont plus accès à leurs revenus habituels. Témoignage.
Les parents aujourd'hui ne sont pas en mesure même de passer au marché pour se procurer des habits pour leurs enfants. La situation actuelle n'est pas bonne.
Dans les marchés comme Ibirere, les commerçants se plaignent également. Les stands sont moins fréquentés et les achats se font rares.
Je suis vendeuse à Birere. Nous nous demandons si les familles mangent encore. Malgré la baisse des prix des marchandises, les sacs de riz ne bougent pas, l'huile n'est pas achetée, nous ne voyons pas encore la température des fêtes.
Cependant, malgré ce contexte difficile, la ville de Goma reste partagée entre l'incertitude et la résilience. Plusieurs articles essentiels voient leur prix baisser en cette période de fin d'année, permettant d'alléger légèrement le coût de la vie.
Et nous bouclons ces nouvelles concernant les préparatifs des fêtes de fin d'année au Maniema. Le maire de Kindu vient d'interdire la commercialisation et l'usage des pétards dans cette ville. Il invite les services de sécurité à mettre la main sur tout récalcitrant. Atilio Moulamba, maire de Kindu, explique sa décision et son bien fondé au micro de Florence Kizalunga.
En rapport avec l'usage des pétards, il a été constaté que dans certains quartiers, il y a des jeunes qui s'adonnent à cette activité-là. Et je rappelle à la population de Kindu que tout celui qui détient, qui commercialise et qui fait usage des pétards se met en position d'infraction. Et l'État est là, il va s'occuper de lui. Et les services de sécurité, les services de l'ordre sont en train de m'écouter. Je leur ai déjà écrit, il y a des instructions. C'est une façon de rappeler nos services et de rappeler aussi à la population que personne ne peut se permettre de continuer à faire usage de ces détonations dans la ville de Kindu. Ça nous gêne. La première des choses, c'est que nous sommes agressés. Quand il y a détonation, ça fait croire qu'il y a guerre chez nous. Alors que Kindu, en particulier, et les Maniema en général, est dans la paix. Le chef de l'État est en train de maintenir la paix dans notre province. Deuxième chose, c'est qu'il y a recrudescence des vols à main armée. Et lorsque on entend ces détonations-là, ça peut mettre la population dans la psychose, croyant peut-être qu'il y a guerre. La troisième des choses, c'est qu'il y a des gens qui sont sensibles par rapport à leur santé, qui ne peuvent pas supporter ces bruits-là. Il y a des hypertendus qui peuvent piquer des crises et mourir à cause du fait qu'il y a ces détonations-là. Voilà pourquoi nous avons été amenés à rappeler cette mesure qui existait il y a longtemps.
Puisque nous avons évoqué la sécurité, sachez qu'une centaine de militaires et policiers ayant fui ouvrir au sud Kivu lors de la prise de la ville par les forces rebelles de l'AFC-M23, soutenues par le Rwanda, sont jugés à Kalemie, dans la province du Tanganyika. Les audiences foraines organisées par le tribunal militaire de garnison de Kalemie se tiennent au camp marin depuis vendredi. Les prévenus sont poursuivis pour abandon de poste. Que retenir de cette première audience pour la Munanga?
L'audience de ce vendredi a été consacrée à l'identification des prévenus. Sur les 124 prévenus, dont 68 militaires et 56 policiers, 66 d'entre eux ont été identifiés. Et cette procédure va se poursuivre, précise le président du tribunal militaire de garnison de Kalemie. Celui-ci indique que ce procès vise à sanctionner les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont failli à leur devoir et ont violé les consignes en fouillant les forces rebelles de l'AFC-M23. Pour le président du tribunal militaire de garnison de Kalemie, l'objectif est de rétablir l'ordre et la discipline au sein des forces armées et de la police. Le lieutenant-colonel Désiré Diondamukole précise qu'il est question de ramener sur les rails les militaires qui se méconduisent. Les militaires et les policiers qui sont affectés dans le sud Kivu doivent faire mouvement sur ordre de leur hiérarchie, fait remarquer le président du tribunal militaire de garnison de Kalemie. Le ministère public poursuit ces éléments pour n'avoir pas respecté les règlements et la discipline militaire et policière. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Comme annoncé en titre, le Fonds monétaire international valide un décaissement immédiat de 445 millions de dollars américains en faveur de la République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à l'approbation de la deuxième revue du programme du pays dans le cadre de la facilité élargie de crédit FEC et du premier examen de la facilité pour la résilience et la durabilité. Jude Bilanda, Mr. Bilanda nous explique ce qu'il en est.
Ces décaissements portent le total des décaissements à 570,9 millions de droits de tirage spéciaux au DTS dans le cadre de la facilité élargie de crédit ainsi qu'un versement initial de 133,25 millions de DTS. Le FMI reconnaît la résilience de l'économie congolaise malgré les conflits armés à l'est du pays qui ont un impact profond sur les finances publiques et aggravent la crise humanitaire. Les produits intérieurs bruts de la RDC devraient franchir la barre des 5% en 2025 et 2026, soutenu par un secteur extractif dynamique. L'inflation a chuté, passant de 11,7% à la fin de 2024 à 2,2% en novembre 2025, grâce à une politique monétaire stricte et à l'appréciation du franc congolais. Malgré ces avancées, la situation sécuritaire dans l'est du pays reste préoccupante. Ainsi, les Fonds monétaires internationaux exhortent les autorités congolaises à maintenir une discipline budgétaire stricte, à renforcer la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires et à accélérer les réformes structurelles pour faire face à la crise humanitaire persistante.
Nous sommes au Kasaï-Oriental à présent. Il est actuellement difficile de se procurer un sac de 50 kilos de maïs de Kanyama KCC. C'est suite à l'engouement observé au point de vente créé par les revendeuses de ce produit. Le gouverneur de province a été sur place jeudi dernier. Jean-Paul Mbouiboui a instruit que chaque client ne se procure qu'un sac pour permettre à tous les acheteurs d'accéder à cet aliment de base. Esther Dalafina est allée s'en rendre compte. Son reportage est rendu ici par Jean Gandou.
Au point de vente de maïs de Kanyama KCC situé sur la route du parquet, plusieurs femmes attendent devant la parcelle pour obtenir le jeton pouvant leur permettre d'acheter le sac de maïs. Certaines sont arrivées à cet endroit vers 5 heures du matin et pourtant les dépôts ne s'ouvrent qu'aux environs des 9 heures. Les bousculades commencent dès que les agents des services nationaux arrivent pour ouvrir les dépôts. Une femme trouvée sur place dit n'avoir acheté que 2 sacs sur les 4 proposés.
Ils sont venus me chercher pour Kanyamakassi. Il y a plein de monde ici. Ça fait 3 jours que nous venons sans acheter même un sac de maïs.
Au cours de la visite surprise effectuée jeudi dernier au dépôt du maïs du marché Bakwadianga, le gouverneur des provinces a déploré le système mis en place pour vendre cette denrée alimentaire. Jean-Paul Mbouéboué a donné des instructions claires.
Nous sommes venus nous-mêmes nous rendre compte de cette réalité. Ils le vendent toujours à 50 000. On a mis de l'ordre et chacun aujourd'hui a acheté son sac au prix fixé de tout ce temps. Chacun est revenu un sac par personne.
Signalons qu'après la visite du gouverneur au point de vente de maïs, plusieurs autres sacs de maïs de Kanyamakassi ont été retrouvés et récupérés dans les dépôts du grand marché de Bakwadianga.
L'enseignement, la coordination sous-provinciale des écoles conventionnées kimbanguistes dans la Tchopo s'investit dans l'amélioration et la qualité de l'enseignement conformément à la vision du gouvernement congolais. Pour ce faire, elle a organisé du 15 au 16 décembre courant un séminaire de renforcement des capacités à l'intention de 75 chefs d'établissement de sa juridiction. Il s'agit de les outiller notamment sur le plan pédagogique et aussi de lutter contre les violences en milieu scolaire en vue de garantir le droit de l'enfant. Jacques Moukonkole nous en dit plus.
Pour le révérend Jean-Pierre Ikandikand, coordonnateur provincial des écoles conventionnées kimbanguistes, les chefs d'établissement doivent s'approprier les réformes en cours et l'organisation pédagogique pour une amélioration de l'enseignement.
Il y a la notion sur la nouvelle citoyenneté, il y a l'organisation pédagogique d'une école, la gestion et la transparence dans une école, les rôles administratifs et religieux d'un chef d'établissement. On a parlé aussi de l'importance des évaluations pédagogiques dans les écoles.
De son côté, le coordonnateur provincial, le révérend Clément Kasongo, exhorte les chefs d'établissement à éviter les erreurs du passé et à faire de l'école un espace sûr et de qualité pour l'apprentissage des élèves.
Des erreurs, il faut corriger pour que nous puissions prendre une bonne allure en vue de faire rendre des loyaux services à l'État congolais.
Au sujet des violences sexuelles, le magistrat Edmond Bokwelima leur recommande une sensibilisation continue au sein de leurs établissements respectifs pour endiguer ce fléau.
L'école a une grande responsabilité sur le plan administratif vis-à-vis des actes que les enfants peuvent subir au niveau de l'école.
Les participants promettent de mettre en application des enseignements reçus pour le bien de la future génération. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Coupe d'Afrique des Nations CAN a démarré hier dimanche au Maroc. 24 équipes civiles hautes, 9 stades accueillent ce tournoi. Hier, le Maroc, pays organisateur, a eu raison du Comores par 2-0. L'équipe de sport y reviendra en détail après ce journal. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont officiellement mis en place hier dimanche leurs forces unifiées. Celles-ci regroupent les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est le président du Mali, le général Assimi Goïta, qui est aussi président de la Confédération des 3 pays sahéliens, qui a dirigé la cérémonie solennelle de lancement à Bamako. Et pour lui, le nouveau commandement de cette force devra anticiper sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes, mais aussi continuer le combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel.
L'invité.
Andé Kadilo est notre invité. Elle est porte-parole de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo MONUSCO. Elle revient sur la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient de prolonger pour 1 an le mandat de la MONUSCO. Andé Kadilo s'entretient ici avec Jean Gandou.
Andé Kadilo, bonjour.
Bonjour Jean.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient à travers la résolution 2808 de prolonger d'un an le mandat de la MONUSCO. Qu'est-ce que cette nouvelle résolution apporte de nouveau par rapport à celle de l'année dernière?
La résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies apporte plusieurs éléments significatifs et mesures de renforcement pour la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La nouvelle résolution prolonge le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2026. Contrairement au plan précédent, elle prend acte d'une pause dans le désengagement de la MONUSCO en raison de l'évolution de la situation sécuritaire, notamment au Sud Kivu. Elle intègre de nouveaux cadres diplomatiques tels que l'accord de paix de Washington signé en juin 2025 et le cadre de paix de Doha, novembre 2025, et autorise la MONUSCO à soutenir un cessez-le-feu permanent via un mécanisme de suivi et de vérification COVM. Enfin, elle exprime une inquiétude inédite face à l'utilisation de technologies sophistiquées par les groupes armés comme des missiles, sol-air et des drones suicides.
Quelles mesures la résolution prévoit-elle pour lutter contre les violations des droits de l'homme et l'impunité, notamment ce qui concerne les violences sexuelles et les crimes contre les enfants?
Pour combattre l'impunité, la résolution 2808-2025 prévoit les mesures suivantes. En termes de redevabilité et de justice, elle exhorte le gouvernement congolais à traduire en justice les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, tout en renforçant la coopération avec la Cour pénale internationale. Dans le cadre du vetting, du filtrage, elle préconise la mise en œuvre d'un système de filtrage systématique pour exclure des forces de défense et de sécurité toute personne soupçonnée de violation des droits de l'homme. Dans le domaine des violences sexuelles, la résolution 2808 demande l'accélération des arrangements de surveillance et de rapports sur les violences sexuelles et exhorte le gouvernement congolais à financer les plans d'action pour les réparations aux survivants. Dans le cadre de la protection de l'enfance, elle exige la fin immédiate du recrutement d'enfants et demande que ceux-ci ne soient pas détenus pour leur association avec des groupes armés, mais remis à des acteurs de la protection de l'enfance.
Comment cette nouvelle résolution aborde-t-elle les questions des groupes armés et même du M23 qui bénéficient du soutien du Rwanda tel que reconnu par la communauté internationale?
La résolution 2808 condamne fermement l'offensive du mouvement du 23 mars et de l'Alliance du fleuve Congo, mentionnant explicitement le soutien direct et la participation des forces de défense rwandaises RDF. Elle exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et la cessation de tout soutien au mouvement du 23 mars. La résolution 2808-2025 demande à la MONUSCO de surveiller l'embargo sur les armes, notamment en signalant les mouvements de troupes et d'armes à la frontière Est, et dénonce l'usage de brouillage GPS dans les zones contrôlées par le mouvement du 23 mars et l'Alliance Fleuve Congo. La mission reste aussi autorisée à mener des opérations offensives ciblées via sa brigade d'intervention, la FIB, pour neutraliser les groupes armés.
Comment la MONUSCO entend-elle mettre en œuvre cette résolution quand on sait qu'elle a du mal à se mouvoir dans les parties qui sont sous occupation de la rébellion?
Pour opérer malgré les contraintes de mouvement que la MONUSCO vit dans les zones sous contrôle de l'Alliance Fleuve Congo au mouvement du 23 mars, la résolution autorise une posture robuste et ordonne le maintien d'un déploiement proactif, mobile et flexible, particulièrement dans les zones à haut risque. Elle préconise aussi l'usage des technologies de surveillance, des systèmes aériens sans pilote, les drones, afin de surveiller les violations de l'embargo et les mouvements des groupes armés. En ce qui concerne la liberté de mouvement, le Conseil exige la levée immédiate de toute entrave à la circulation de la MONUSCO et exprime son intention de sanctionner ceux qui planifient ou participent à des attaques contre les casques bleus.
Vous dites que la nouvelle mission de la MONUSCO a été renforcée. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que la MONUSCO aura besoin des troupes supplémentaires pour mener à bien cette nouvelle mission sur le terrain?
Pour ce qui est des troupes, la résolution ne mentionne pas l'ajout de troupes supplémentaires au-delà des plafonds déjà établis. Elle fixe le plafond autorisé à 11 500 militaires, 600 observateurs militaires et officiers d'état-major et environ 1 700 membres du personnel de police. L'accent ici est mis sur l'adéquation des ressources existantes et sur le fait que les contingents doivent être disposés, capables et équipés afin de remplir leur mission dans un environnement de menace asymétrique.
Est-ce que nous pouvons dire qu'à ce stade, le nouveau mandat caractère coercitif vis-à-vis de ceux qui pourraient gêner la bonne exécution de la mission de la MONUSCO sur le terrain?
Le nouveau mandat possède effectivement un caractère coercitif significatif afin d'assurer son exécution. Il ordonne le recours à la force agissant sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité autorise la MONUSCO à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de son mandat. Et il ordonne aussi les offensives ciblées, la brigade d'intervention de la force est spécifiquement autorisée à mener des opérations offensives ciblées de manière unilatérale ou conjointe afin de neutraliser les groupes armés. Le Conseil exprime son intention d'imposer des sanctions contre les individus ou entités qui planifient, dirigent ou participent à des attaques contre les casques bleus ou le personnel des Nations Unies. La résolution exige également la levée immédiate de toute contrainte à la liberté de mouvement de la MONUSCO.
Je rappelle que vous êtes porte-parole de la MONUSCO et merci de vous être prêté à nos questions.
Merci Jean.
Merci également à vous Jean Gandou. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par Jude Mister Bilanda. Édition parvenue chez vous grâce à la porte technique de Billy Landry-Bétou. Excellente semaine à vous tous.